Recevons de la part de Dieu la grâce, la joie, la paix dans notre cœur, dans notre vie, au cœur même de notre existence. Et levons-nous pour chanter l'Éternel avec le premier répond indiqué dans le livret liturgique qui figure au début du psautier français « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Oui, sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours, et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles, et l'assemblée des croyants célèbre ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi ? C'est l'amour qui rayonne de toi. Alors, heureux, heureux le peuple qui saura t'acclamer. Tout le jour, à ton nom, il se réjouira. Amen. Et célébrons l'Éternel avec le chant du psaume 138. Nous chanterons les strophes 1 et 2 du psaume 138. Voilà, nous venons d'éprouver tout l'intérêt de la vie ecclésiale, c'est de pouvoir créer la communion du répond complètement désynchronisé que nous avons chanté au début du culte. Nous en sommes arrivés à la symphonie avec ce psaume. Eh bien, l'idée de la vie en église peut aussi s'exprimer à travers le baptême. Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Mélanie Desmereaux qui demande le baptême, et c'est une manière pour nous de découvrir ce sens de la communion qui permet à chacun de trouver une place au sein du peuple de Dieu, figure de notre humanité. C'est donc avec grand plaisir que nous vous accueillons, sachant que répondre favorablement à une demande de baptême, c'est pour l'Église le moyen de répondre à sa vocation. En effet, au moment de quitter ses disciples, nous souvenons que Jésus leur donne ses dernières consignes, leur disant que toute autorité lui a été donnée sur la terre et dans les cieux. Il leur dit « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-le à regarder tout ce que je vous ai enseigné. Et cela se joint d'une promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous nous recueillons dans la prière. Éternel notre Dieu, un jour nous avons été baptisés, pardonne-nous de l'oublier. Peut-être avons-nous été baptisés effectivement, et dans ce cas nous avons été baptisés en ton nom de Père. Mais nous ne t'aimons pas forcément de tout notre cœur. Nous ne savons ni dire ni montrer que nous sommes tes enfants. Nous nous écartons de toi et nous voulons marcher seuls. Baptisés, nous l'avons été au nom de ton Fils. Mais aimons-nous vraiment notre prochain? Ne cherchons-nous pas plutôt notre propre intérêt au lieu de servir? Baptisés, nous l'avons été au nom de l'Esprit. Mais avons-nous porté les fruits de l'amour, de la fidélité et de la joie? Nous t'en prions, Père. Accorde-nous ta grâce et donne-nous de vivre dans ta paix et à ton service. Amen. Mélanie, je vous invite à vous lever, à me rejoindre. Voilà, votre visage est connu de nos paroissiens. Nous avons eu le plaisir de vous accueillir il y a quelques mois. Et puis, petit à petit, je dirais que vous avez progressé jusqu'au cœur de cette église. Et le moment est venu pour vous, aujourd'hui, de demander le baptême, qui est à la fois le signe de votre désir de vivre en chrétienne, et puis aussi une forme de reconnaissance, la reconnaissance de cette grâce qui vous enveloppe, cette grâce qui vous fait prendre conscience que vous avez effectivement votre place dans cette communauté particulière, figure de la communauté universelle. Je dirais que votre parcours témoigne de ce qu'est la grâce, et c'est la raison pour laquelle ce matin, frères et sœurs, plutôt que de théoriser sur la grâce, eh bien, je vous propose d'entendre un bout de ce parcours que Mélanie à penser, partager avec nous, pour entendre de quelle manière la grâce se fraye un chemin dans une histoire personnelle.
Jésus, reprenant les paroles du prophète Ésaïe, a déclaré « L'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, pour envoyer libres les opprimés. Et en effet, ma vie, c'est l'histoire d'une formidable libération, d'une résurrection à moi-même et au monde, grâce à la puissance de Dieu. J'ai passé les 20 premières années de ma vie sans Dieu, dans un athéisme tranquille mais plat. Puis, l'horizon s'est bouché, et je me suis sentie comme enterrée dans une vie dans le brouillard, prisonnière du pays de servitude. mais c'était sans compter la merveilleuse inventivité de Dieu. Peu à peu, j'y ai vu de plus en plus clair. Les obstacles qui barraient le passage se sont peu à peu dissipés. Le désespoir, la crainte face au monde ont petit à petit reculé. Bien sûr, le processus a pris du temps. Il est arrivé que plusieurs fois les obstacles, après avoir vacillé, reprissent leur épaisseur initiale. Mais, peu à peu, grâce à la fréquentation chaque dimanche du culte, la lecture régulière de la Bible, et grâce à plusieurs personnes enthousiasmantes, un chemin de vie s'est ouvert devant moi. Et, finalement, le Jourdain est apparu devant mes pas. Je me suis libérée de la souffrance pour trouver enfin confiance dans le monde. Je me suis libérée de l'enfermement sur moi-même pour devenir un passeur entre les humains, pour éclairer les personnes sur elles-mêmes.
Mélanie, vous avez donc demandé le baptême pour marquer une étape sur votre cheminement spirituel et vous nous donnez maintenant l'occasion de partager la nature de ce chemin et notamment l'horizon qui s'ouvre devant vous.
La foi et la confiance en Dieu m'aident à dépasser tout ce que je peux faire et penser d'un point de vue personnel et professionnel. Elle me donne un au-delà, un horizon ultime sans cesse à atteindre, ce qui me permet de vivre enfin d'une vie joyeuse et abondante. Certes, les obstacles se présenteront toujours. Certes, la vie sera parfois difficile. Mais les bénédictions des hommes et des femmes qui m'entourent, ainsi que l'amour et l'alliance de paix irrévocable d'un Dieu bienveillant m'aideront à avancer. C'est pourquoi je suis heureuse de recevoir aujourd'hui le signe visible de l'amour de celui qui sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mon parcours de vie, c'est passer des ténèbres à la lumière, c'est me relever de mon abaissement pour me tenir debout dans la position des ressuscités. Comme le dit le psalmiste, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.
Je vous invite à vous approcher du baptistère. Mélanie, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour vous aussi, cette parole est vraie. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, dit l'Éternel. Mon alliance de paix, mon amour, voilà ce qui demeure. Amen. Vous avez prolongé votre parcours spirituel jusqu'à envisager de pouvoir aussi exprimer votre foi et d'en faire en quelque sorte l'offrande pour notre communauté. La profession de foi de Mélanie sera notre profession de foi ce matin et je vous invite donc à vous lever pour vous y associer.
Dieu est la source de vie, c'est ce que je crois. Il est un dynamisme créateur qui met le monde en mouvement et qui fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Dieu est pour moi la source de l'espérance, celui qui guide l'humanité et lui permet de s'élever au-dessus de sa condition. L'amour de l'Éternel est inconditionnel et irrévocable. Même après l'échec de la croix, Dieu a continué à aimer l'humanité. Dieu est celui qui guide et construit l'homme, en le rendant libre et responsable. L'homme est libre d'agir dans le monde, mais il est responsable au sens de garant de lui-même et des autres. Et quand bien même il serait dans le péché, il ne sera jamais écrasé, mais pourra toujours progresser pour atteindre la vie joyeuse et en abondance du royaume de Dieu. Amen.
Je vous invite à prendre place. Mélanie, voulez-vous, avec le secours du Saint-Esprit, vous efforcer de vivre en chrétienne, en aimant Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même ?
Oui, que Dieu me soit en aide.
Mélanie, vous avez reçu le baptême, c'est, comme vous le disiez, le signe visible d'une grâce invisible. C'est le signe de cet amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, un amour inconditionnel et irrévocable, comme vous le disiez fort bien. Vous avez exprimé cette grâce par votre profession de foi, et quant à nous, nous vous reconnaissons comme membre de cette Église. Vous avez bien sûr votre place ici même, et notamment la table du Seigneur, et puis je dirais que vous avez votre place aussi dans la vigne du Seigneur, c'est-à-dire là où l'on agit, là où l'on s'engage, là où l'on œuvre, inspiré par cette grâce-là. Et nous en sommes très heureux. Voilà, votre place est à jamais marquée au sein du peuple de Dieu, votre place est à jamais marquée ici même, et cette communauté est le témoin de cette grâce de Dieu en vous exprimant que vous êtes vraiment la bienvenue. Et nous vous le dirons peut-être plus charnellement tout à l'heure, à la sortie du culte, au moment de vous féliciter. Et je propose que nos amis d'Amparibé célèbrent cela avec un chant de leur crue. Pour faire écho à cet esprit de liberté, cet esprit de libération qu'a évoqué Mélanie, je vous propose une lecture dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 34. Je vais vous lire les versets 8 à 11, puis 17 à 22. Voici la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. après que le roi Sédécias eut conclu une alliance avec le peuple de Jérusalem pour leur proclamer l'affranchissement. Cela afin que chacun renvoie libre son esclave et sa servante, celui et celle qui étaient hébreux, et que personne ne tienne plus dans la servitude son frère le juif. Tous les ministres et tout le peuple qui s'étaient joints à l'alliance obéirent à l'ordre de renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. Mais ensuite, ils revinrent sur leur décision. Ils firent revenir les esclaves et les servantes qu'ils avaient renvoyés libres et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. « Vous ne m'avez pas obéi en proclamant l'affranchissement chacun de son frère, chacun de son prochain. Voici, je proclame contre vous, oracle de l'Éternel, l'affranchissement de l'épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont enfreint mon alliance, qui n'ont pas accompli les conditions de l'alliance qu'ils avaient conclue devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Les ministres de Juda et les ministres de Jérusalem, les chambellans, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau, je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Sédécias, roi de Juda et ses ministres, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone, qui rompt le contact avec vous. Voici, je donnerai mes ordres, oracle de l'Éternel, et je les ferai revenir contre cette ville. Ils combattront contre elle, ils la prendront et la brûleront par le feu, et je ferai des villes de Juda une désolation sans habitants. Un peu plus de douceur avec le choral 45. À la fin du psautier français, nous avons mis un livret de choral luthérien et nous allons chanter le choral 45, les strophes 1, 2 et 3.
Thank you.
Éternel, nous te rendons grâce pour cette initiative de la rencontre. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. Tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Chers frères et sœurs, bien des textes bibliques s'interrogent sur la question de l'esclavage, et ce que les textes bibliques donnent à penser sur cette question montre un certain goût pour la liberté, déjà fortement prononcé. Ce passage du livre de Jérémie fait état de l'abolition de l'esclavage au sein de la communauté israélite, à l'époque du roi Sédécias, dont on estime le règne aux alentours du début du VIe siècle avant notre ère. Ce texte biblique ne nous dit pas quelles ont été les motivations pour promulguer une telle abolition de l'esclavage. Ce texte nous raconte plutôt la cascade d'effets que cette décision a provoquée. Et c'est cette cascade d'effets que je vous propose donc d'observer. Le premier effet, assez singulier mais assez compréhensible, c'est que les anciens propriétaires reviennent sur leur décision et forcent les esclaves, les anciens esclaves, à redevenir esclaves. Cela signifie que les hommes libres, qui ont librement choisi d'affranchir les esclaves, se rendent compte soudainement que ce n'était pas une si bonne décision que cela, et qu'il faut revenir sur cette décision. Raconter ce revirement permet de souligner que les hommes qui étaient identifiés comme étant vraiment libres ne l'étaient pas tant que cela en fait. Ils découvrent qu'ils ne peuvent pas vraiment vivre sans leurs esclaves, et qu'il va falloir retourner à la case départ. Et ce que ce texte montre, de façon assez savoureuse, je trouve, c'est que les vrais esclaves sont d'abord les propriétaires qui étaient tellement dépendants de leurs esclaves qu'ils se sont vite rendus compte que la vie était impossible sans eux. Voilà pourquoi, très probablement, ils se sont empressés de leur remettre la main dessus, de force, pour les contraindre à reprendre du service en leur faveur. Ce premier effet met en évidence un bienfait de l'abolition de l'esclavage. C'est qu'il permet de rendre vraiment libre l'ensemble des humains et pas simplement ceux qui sont identifiés comme étant esclaves. Dans ce texte biblique, comme ailleurs dans la Bible d'ailleurs, ce n'est pas le fait d'avoir besoin d'un autre que soi qui est remis en cause. De manière générale, les textes bibliques encouragent le service mutuel, considérant que nous avons besoin les uns des autres pour mener une vie bonne. Ici, le texte biblique repère le moment où il y a une perversion dans ce besoin réciproque. C'est lorsque nous devenons dépendants du rapport de domination. Que chacun ait des compétences spécifiques et que nous fassions appel à un boulanger professionnel pour avoir du bon pain, rien de plus normal et rien de plus souhaitable. Que nous ne puissions plus vivre sans avoir une brigade d'esclaves à notre botte, voilà qui pose problème. Car si nous ne pouvons pas vivre sans avoir des gens qui nous sont soumis, cela laisse entendre que nous ne pouvons pas vivre sans entretenir des rapports de domination, rapports qui, bien sûr, sont contraires à l'esprit des textes bibliques qui font la promotion d'une égale dignité entre tous les êtres. Et cette idée sera développée à la hauteur d'une fraternité universelle. Les textes bibliques récusent l'esclavage, en effet, qui pose qu'il y a d'un côté les hommes libres, qui ont tous les droits, et de l'autre, les esclaves, qui ont tous les devoirs. L'apôtre Paul ne dira pas autre chose, à l'autre bout de la Bible, en disant que la fraternité développée par le Christ Jésus conduit à ce qu'il n'y ait plus ni esclaves, ni hommes libres. Mais reconnaissons aussi que cette dynamique-là se fera progressivement. Dans notre texte biblique, il n'est question que d'abolition de l'esclavage en faveur des membres de la communauté. La deuxième chose que met en évidence ce récit, c'est que les anciens esclaves redeviennent esclaves après avoir été affranchis et sans qu'il y ait de rébellion. Je veux dire que moi, en tant que protestant, je suis assez étonné qu'il n'ait pas beaucoup protesté. On a l'impression que pour eux, c'est normal, finalement. On leur dit « Vous êtes affranchis ?» Très bien, nous sommes libres. On leur dit « Non, 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 vous redevenez à nouveau esclaves. » Très bien, nous sommes à nouveau esclaves. C'est quand même assez intriguant, cette affaire. Comment se fait-il que les affranchis n'aient pas fait valoir leurs nouveaux droits ? Pas de manifestation, pas de grève de la faim, on ne casse pas les outils de travail. Comment se fait-il que le pouvoir de domination ait pu fonctionner si facilement? Eh bien, c'est cela que le texte biblique nous met sous les yeux, non pas pour décortiquer les mécanismes, mais pour nous rendre attentifs qu'il y a de tels mécanismes qui rendent les gens esclaves, même lorsque les chaînes ont été rompues, même lorsque leur statut administratif a été modifié. Un esclavage sournois, insidieux. La deuxième chose que ce récit met en évidence, c'est qu'il est un esclavage sournois qui consiste à ne pas informer les individus de leurs droits. Maintenir quelqu'un dans l'ignorance, voilà un véritable mécanisme d'esclavagisme. Parce qu'en maintenant quelqu'un dans l'ignorance, on s'assure qu'il ne sera pas totalement libre de pouvoir exercer la plénitude de ses capacités et notamment de ses droits. Oui, il est des esclavages sournois qui s'élaborent insidieusement, sans se dire, mais qui sont redoutablement efficaces et qui s'appuient notamment sur la rétention d'informations. Quand on ne connaît pas ses droits, il y a peu de chances qu'on se batte pour les défendre. Quand on ne sait pas qu'on est autorisé à être heureux, il y a peu de chances qu'on se révolte contre le malheur. Quand on ne sait pas que nous avons de la valeur, il y a peu de chances que nous osions nous exprimer à la face du monde. Ce qui est révoltant dans ce texte, c'est que les nouveaux hommes libres soient en fait restés esclaves. Esclaves des représentations sociales auxquelles ils avaient été habitués. Car voilà bien le cœur du problème, l'habitude, l'éducation. La façon dont se forge notre compréhension de la vie et qui tient principalement à ce que nous avons vu et à ce que nous avons entendu. Car il n'y a pas de génération spontanée de l'éthique. La grâce n'est pas quelque chose qui nous tomberait comme ça, tout droit du ciel, et qui nous dirait « maintenant, tu peux y aller ». Les choses se font par médiation, par incarnation. Les relations que nous avons avec autrui dépendent principalement des relations que nous avons observées dans nos lieux de vie, à commencer par la famille, puis l'école, notre lieu de travail, nos lieux de loisirs, notre église. Si nous n'avons pas connu autre chose que le contexte familial, eh bien nous serons totalement imprégnés de ce qui a été vécu dans cette famille, pour le meilleur et parfois pour le pire. Des parents violents rendent la violence légitime dans les rapports humains. Attribuer les tâches ménagères aux seuls éléments féminins de la famille rend légitime le caractère sexiste de ces tâches. Être privé de parole ou de reconnaissance nous fait croire que notre parole ne vaut rien et que de manière générale, nous n'avons pas beaucoup de valeur. Et c'est là que la religion biblique pose un pied et change la donne. La religion biblique qui, nous le savons, insiste sur la dimension de révélation, a notamment pour fonction de révéler ce qui est vraiment constitutif de l'être humain, de notre humanité. Je dirais qu'un point fort de la religion biblique est de travailler sur les stéréotypes pour proposer de nouvelles manières d'être. La religion biblique envisage une succession de ruptures. Et parmi ces ruptures, des ruptures avec des habitudes bien ancrées qui contredisent l'idée fondamentale que les textes bibliques se font de l'être humain et plus particulièrement de sa vocation à être libre. Les textes bibliques ont comme caractéristique de lutter contre la rétention d'informations. Vous voyez, par exemple, on reproche parfois aux textes bibliques d'être pluriel, de porter en son sein des contradictions, des tensions, des paradoxes. Eh bien, cela signifie bien que les rédacteurs bibliques, puis les croyants qui ont constitué la liste des livres bibliques, ont eu à cœur de ne pas faire de censure qui garderait sous le silence des textes peut-être un peu subversifs, des textes qui remettent en cause des habitudes, des textes qui brisent les stéréotypes et les conventions. Les textes bibliques, dans leur écriture, dans leur composition et dans la liste qu'ils forment, constituent un véritable principe de révélation pour rompre avec les habitudes qui empêchent l'humanité d'être libre, vraiment libre, pour reprendre le cantique que Martin Luther King ne manquait pas de fredonner. Les textes bibliques vont par exemple remettre en cause le droit d'aînesse, qui donnerait une priorité au biologique et au chronologique. Ils vont remettre en cause les sacrifices humains qui font de Dieu un être sanguinaire. Ils vont remettre en cause la valeur supérieure du travail, de la race, de l'argent. Ils vont remettre en cause l'idée qu'il y aurait un destin écrit à l'avance. Ils vont remettre en cause le lien mécanique entre faute morale et maladie. Ils vont remettre en cause l'esclavage comme structure fondamentale d'une société. Bien d'autres ruptures sont engagées par les textes bibliques. Les textes bibliques ouvrent notre conscience à d'autres manières d'envisager la vie, d'envisager le relationnel, d'envisager la valeur spécifique des choses, des situations, pour que nous ne soyons pas les esclaves d'une pensée unique qui nous aurait été inculquée et qui nous empêcherait d'être un individu capable de faire des choix personnels, de les assumer et au final d'être vraiment libre. Voilà le deuxième enseignement que le texte biblique nous propose en racontant les effets de cette abolition un peu avortée. Après avoir dénoncé les rapports de domination et de servitude, après avoir mis en évidence l'esclavage provoqué par la rétention d'informations, notre texte envisage un mode relationnel évangélique qui pourrait être notre source d'inspiration au quotidien. Le texte biblique ne se contente pas de casser les idoles, de déconstruire ce qui doit l'être, il nous propose aussi une façon d'être ensemble. Et ce mode relationnel, c'est l'alliance, un thème biblique bien connu, mais sur lequel nous pouvons revenir. C'est une alliance que le roi Sédécias a conclue avec le peuple, et c'est cette alliance qui va être évoquée au moment de solder cet épisode biblique. Ce qui est intéressant dans ce texte, et notamment dans la fin de ce texte, c'est qu'il nous rappelle comment fonctionne une alliance dans le Proche-Orient ancien. C'est assez étonnant, et nous aurions du mal à faire de même aujourd'hui, car tout commence par le fait que les deux parties qui ont envie de conclure une alliance, de faire contrat, après s'être entendus sur les termes, découpent un animal en deux. Et on sépare les deux moitiés. Puis, les deux parties traversent cet espace créé par les deux moitiés d'animaux. C'est un rite imprécatoire. L'idée est la suivante. Si l'un des deux enfreint l'alliance, ne respecte pas les termes, alors il finira comme cet animal découpé en deux. C'est un rite imprécatoire. Ce rite avait pour fonction, bien sûr, d'encourager les partenaires de l'alliance à la respecter en leur faisant peur, mais il y a plus que cela. En coupant les animaux en deux et en les séparant, on crée un espace de vie. Et c'était une façon aussi de dire que l'alliance permettait de créer un nouvel espace commun. Et ce que nous traduisons souvent par « conclure une alliance » se dit en hébreu « couper une alliance ». Et c'est dans cet entre-deux qu'une vie est possible. Autrement dit, le principe même de l'alliance est un rite qui engage les partenaires de l'alliance à entrer dans une communion au sein d'un nouvel espace. C'est un peu un rite de création, car si nous lisons Genèse 1, nous voyons que la création se fait par séparation et par habitation du nouveau lieu créé. L'avantage de ce rite, c'est qu'il met tout le monde à égalité. Chacun est vraiment libre, puisqu'il est déclaré responsable de ce qui va arriver. Si tu ne respectes pas l'alliance qui a été conclue, eh bien tu en tireras certaines conséquences. Cela signifie que l'homme est réputé responsable de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Et cela est intéressant, parce qu'envisager que l'alliance puisse être non respectée, qu'il puisse y avoir une infraction, eh bien rend chaque partenaire vraiment libre. Car c'est à la condition de pouvoir échouer que nous sommes vraiment libres de pouvoir réussir. En envisageant ce qui se passera, si l'un des deux ne respecte pas les termes du contrat, le rite pose que chacun agit en ayant la capacité d'assumer ses actes, d'être responsable. Et voilà qui est vraiment intéressant. Parce qu'évidemment, dans le rapport de domination d'homme libre à esclave, on n'envisage pas que l'esclave puisse être libre de réussir ou non. L'esclave doit faire ce qu'on lui demande de faire. Mais il ne peut pas être libre d'échouer. Il ne peut pas être libre non plus de pouvoir faire mieux que ce qu'on lui demande. il est juste dans un rapport d'exécution. Et ce que je retiens dans ce texte de Jérémie, c'est qu'il y a ce développement de tout ce qui va arriver au peuple hébreu maintenant qu'il a enfreint l'Alliance. Cela nous donne évidemment l'idée d'un Dieu comptable qui solde en remboursant à la hauteur du crime ou de la faute commise. Mais peut-être pouvons-nous entendre ce texte d'une autre manière. Oui, Jérémie en vient à dire quelles vont être les sanctions appliquées à ceux qui n'ont pas respecté l'Alliance et qui ont remis la main sur les anciens esclaves contrairement à ce qui avait été conclu. Et peut-être l'Éternel apparaît-il sous les traits d'un justicier comptable qui va rendre à chacun en fonction de ses fautes. Mais j'aimerais que nous l'entendions comme le récit utile pour mettre en évidence la responsabilité des personnes plutôt que pour dire précisément ce qui va arriver à ceux qui ont enfreint l'Alliance. Et pour bien comprendre cela, soyons attentifs au verset 17 qui inaugure la liste des sanctions. Cela commence en disant que l'Éternel va affranchir l'épée, la peste et la famine. L'Éternel va affranchir l'épée, la peste et la famine. Je trouve qu'ici, le rédacteur biblique pense la justice dans des termes qui sont assez proches de ce qu'écriront plus tard, je ne fais pas d'anachronisme, de ce qu'écriront plus tard les théologiens du process lorsqu'ils réfléchiront à la question de la justice divine. En agissant contre les libertés des esclaves, les fautifs ont agressé le principe de liberté. Ils ont fait souffrir la liberté. Ils ont blessé la liberté. Autant d'images pour dire qu'ils ont perturbé les relations interpersonnelles au lieu de promouvoir la liberté, au lieu de permettre à chacun un plein épanouissement. Autrement dit, le peuple hébreu était face à un défi, libérer véritablement les esclaves et leur permettre de pouvoir exercer toutes leurs capacités. Les Hébreux n'ont pas relevé ce défi. Ils ont maintenu les esclaves dans le statut d'esclaves au lieu de leur permettre d'être libres et donc d'être libres notamment de faire mieux que ce que les maîtres leur demandaient de faire. Et ce que le rédacteur biblique fait, c'est de montrer les prolongements du comportement des Hébreux. En libérant les forces de domination, en libérant le pouvoir de contrainte, les fautifs ont atrophié une partie de l'humanité. Ce qui peut se dire par le fait qu'ont été libérées l'épée, la peste et la famine, autant de choses qui réduisent l'humanité. Autant de fléaux qui réduisent l'humanité. Réduire quelqu'un en esclavage, eh bien le texte biblique dit que cela revient à brider sa capacité d'initiative. C'est entraver ses possibilités d'évolution. C'est empêcher sa libre implication dans les affaires du monde. C'est donc se priver d'une personne capable d'améliorer notre quotidien. Et c'est cela que le texte de Jérémie met en évidence. En refusant la libération des esclaves, les Hébreux se sont privés d'avoir de nouveaux partenaires qui auraient pu leur permettre de hisser leur niveau d'existence. Les fautifs s'infligent donc eux-mêmes la conséquence de leur faute, et cela le plus souvent sans en avoir conscience. Et c'est pour cela que la révélation est décisive, c'est qu'elle est aussi révélation pour ceux qui ont bonne conscience, abusivement. Voilà ce que révèle le texte biblique, en rapportant à Dieu ce qui pourrait apparaître comme une rétribution et qui est bien plutôt une révélation. Le texte biblique révèle ce que produisent les différents comportements que nous pouvons avoir pour que nous prenions conscience des implications. Et vous voyez, cela suscite une éthique qui n'est pas une éthique de principe, mais une éthique qui est vraiment une éthique de responsabilité, parce qu'elle s'intéresse aux effets produits par ce que nous faisons, disons, pensons ou vivons. Le texte biblique révèle ce que produisent les différents comportements pour que nous prenions conscience des implications de notre éthique personnelle. Le texte biblique met les comportements en perspective pour nous révéler ce que produisent nos convictions et peut-être pour nous aider à en changer, peut-être pour nous aider à les réformer, peut-être pour nous aider à les ajuster et à les rendre en fait plus conformes à l'esprit de l'Évangile. Voyez, c'est en nous offrant cette connaissance que le texte biblique nous rend vraiment libres. Libres de développer une éthique personnelle en connaissance non pas de cause, mais d'effet. Amen. Je vous propose de chanter ce cantique « Mon Dieu, plus près de toi » comme un cantique un peu de révolte, un cantique qui ne se contente pas des choses telles qu'elles sont, un cantique qui refuse que nous laissions le monde en l'état, un cantique qui nous encourage à relever les défis que l'Évangile nous propose, un cantique plein d'enthousiasme, et donc on va le chanter debout dans la posture des ressuscités.
Thank you.
Prenons place pour partager quelques informations dans notre calendrier. À l'issue du culte, nous pouvons nous retrouver Salmono aux 4 rues de l'Oratoire dans la maison presbytérale pour un déjeuner en commun avec nos amis d'Amparibé. Et puis ce sera l'occasion aussi d'entendre Pierre Chenet, qui est un représentant d'Oikocrédit et qui nous présentera quelques actions qui sont menées dans les pays en voie de développement et notamment sur ce qui est envisagé du côté de Madagascar. Donc, après le culte, retrouvons-nous Salmono. Mardi, à 18h, c'est la répétition du chœur d'enfants en face. Et ici même, à 20h, Pierre Jox donnera une conférence sur la justice des mineurs. Et ce sera en discussion avec la présidente des magistrats chargée des questions d'enfance et de jeunesse. Donc, ici même, à 20h. Jeudi, la répétition du chœur d'adultes est à 19h30. Vendredi, à 12h30, au centre social La Clairière, a lieu Table du Monde. C'est l'occasion de pouvoir partager un déjeuner préparé par les bénéficiaires du centre social La Clairière. Et donc, c'est un repas aux saveurs exotiques, puisque chacun prépare un plat de sa culture. Et donc, ces bénéficiaires nous en font profiter, tarif unique, 12 euros, et c'est donc 60 rue Greneta, au centre La Clairière. Samedi 13, à 10h, l'hébreu biblique et Salverne, et à 16h, la répétition de la chorale s'ouvrira à celles et ceux qui veulent chanter le lendemain lors du culte. Donc, 16h, venez chanter avec ce chœur élargi. Dimanche 14, le culte sera présidé par Marc. Ce sera un dimanche catéchétique et c'est la dernière séance de l'année. Les familles seront donc associées à cette journée. Enfants et parents iront ensuite déjeuner aux Tuileries, puis une après-midi catéchétique, ludique, récréative, festive, conviviale sera organisée jusqu'à 16h. Donc les parents n'oublient pas de réserver ce moment-là. À noter aussi dans votre agenda, le mardi 16 juin à 20h ici même, l'évêque épiscopalien John Shelby Spong donnera une conférence à l'occasion de son livre qui vient d'être traduit, « Né d'une femme », livre qui est d'ailleurs en vente au comptoir librairie, qui a été traduit par une de nos paroissiennes, Abigail Bassac. Et donc « Né d'une femme », c'est la lecture exégétique de cet épiscopalien qui s'efforce de retrouver derrière les récits des évangiles de l'enfance les enjeux de l'époque, les conflits de l'époque et peut-être un peu de ce Jésus historique qui nous échappe toujours. Voilà pour les informations à partager. C'est maintenant le moment de l'offrande. Souvenons-nous que l'Éternel aime le don joyeux. Frères et sœurs, nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te demandons de nous aider à faire partie de ces hommes et de ces femmes qui ont un esprit de sagesse ouvert à ton esprit, qui ont une parole qui libère et qui renouvelle. Oui, apprends-nous à laisser derrière nous ce qui est dépassé. Apprends-nous à nous ouvrir aux choses nouvelles, tous ces projets que tu veux commencer avec nous, toutes ces nouvelles manières d'être que tu nous engages à accomplir. Alors nous te prions pour que nous ne rougissions pas de l'Évangile, que nous osions être signe de contradiction quand cela est nécessaire, et que nous trouvions les mots, les attitudes qui annoncent aujourd'hui la bonne nouvelle, qui soient les moyens dont nous avons besoin pour protester vraiment, protester pour ton honneur et la dignité humaine, protester contre tout ce qui défigure notre humanité. Nous te prions avec insistance pour que ton peuple ne soit pas divisé, pour que personne ne s'obstine dans des impasses, que personne ne s'échine à rester en arrière sur des routes vieillies. Oui, éternel notre Dieu, nous te demandons l'Esprit, source d'unité et d'amour, car tu n'es pas un Dieu de chaos mais de paix. C'est pourquoi, en nous ouvrant à ton Esprit, nous ouvrons aussi aux paroles que le Christ Jésus a prononcées, a transmises à ses amis, à ses disciples. Et nous aussi, nous faisons nôtre cette prière universelle en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. À la sortie du temple, nous aurons donc l'occasion de saluer très fraternellement Mélanie. Marc Verstraat, qui est notre conseiller presbytéral de service, se tiendra également à votre disposition. Si vous êtes un nouveau venu, si vous avez besoin de quelques renseignements, vous pouvez vous adresser à lui. Il a le badge accueil reconnaissable. Et recevons maintenant toutes et tous la bénédiction de Dieu. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.